93.
Comment allez-vous, mes amis? 14h en ce jeudi quoi? Donc 9 janvier. Bonjour, Marc Boilard avec vous. Bonjour, Julie Grenon.
Allô, Marc Boilard.
Hier.
Bonjour, Levez.
Bonjour, Levez.
Bonjour, bonjour.
Ici Vez.
Ici Vez, exactement. Julie, hier, pas très, très fière de toi, dans le
non.
sens que, ben,
ouais.
tu m'as jamais demandé l'autorisation pour t'absenter.
Au départ,
Vez n'aurait jamais fait ça.
Non.
Je m'excuse.
Sauf Fallait. Que, tu sauras que pendant que tu n'étais pas là,
oui.
ton absence a été remarquée.
Oui.
Absolument. Et on a reçu un appel de Louise.
Ah, d'accord.
Ouais. Et sans plus tarder, on va écouter ce que Louise avait à nous dire, mais à ton sujet. Vez, il y a Louise qui veut nous parler. Bonjour, ah. Louise.
Bonjour.
Allô, Louise, on me dit que tu veux nous parler.
Oui, je voudrais rendre hommage cet après-midi à Julie, qui n'est pas là. Et c'est pas que vous êtes pas bons, les gars, mais entre Julie, qu'on a vue apparaître au début comme lectrice de nouvelles et qui, tranquillement, à travers les émissions de Duverne et puis de Marc, a donné son avis sur tout, je trouve que sa présence féminine... C'est comme un ciment ou un lien qui lie toutes les autres personnes qui sont là. Je trouve que quand il arrive des personnes pour interviewer, que ce soit des jeunes enfants, des personnes plus âgées, des personnes qui ont des caractéristiques précises, assez trouver le bon mot pour les mettre à l'aise. Elle a été très animée dans le temps des fêtes pour commencer des chansons. Elle a un ton très juste pour chanter. Ouais. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver d'elle dans la nouvelle programmation, mais cet après-midi, comme elle n'était pas là et comme c'est pas arrivé souvent qu'elle soit pas là, j'ai dit, faut que j'appelle pour la remercier et lui dire comment je l'ai trouvée intéressante tout au long de ces après-midi-là.
Louise, d'un, tu as raison sur toute la ligne.
Oui.
On souscrit des grands... Non, mais pas à peu près. Puis je trouve ça excellent. Puis c'est vraiment... Je parle en son nom. Puis elle pourra te le dire demain, parce que elle va revenir demain, là...
Je vais certainement l'écouter ouais. demain.
Non, mais ouais. je trouve ça très gentil de ta part.
Oui,
c'est, non, mais c'est pas juste gentil, c'est que c'est
justifié.
Oui.
Oui, complètement. Puis on va lui ça. Faire entendre l'enregistrement de ton appel demain.
Voilà, en début d'émission.
Oui.
Et vous lui direz un gros merci encore pour tout le monde.
Salut, Parfait. Louise.
Merci, au revoir.
Oh...
C'est fun, hein?
Oui, c'est le fun.
Puis dans les minutes qui ont suivi, sur 25226, il y en a plusieurs qui ont écrit également pour seconder Louise.
Ah oui, puis parce que tout imprimé ça.
Les petits textes qui sont
écrits. C'est bien gentil.
Ouais.
Ah ben c'est gentil. C'est vraiment, je le prends. Puis c'est vrai que ce que je disais l'autre fois, c'est que quand une aventure professionnelle se termine, puis celle-ci, elle est publique, tu sais, on est à la radio, puis les gens nous écoutent, tout ça. C'est souvent qu'une fois que c'est terminé, tu sais, comme quand tu vas à des funérailles, là, je suis pas morte, pas ça que je veux dire, là. Mais quand tu vas à des funérailles, tout le monde dit ce qu'il aimait de la personne, ouais. tu sais, une fois qu'elle est plus là, tu sais. Fait que ce que je remarque, c'est que depuis que c'est annoncé, finalement, que l'émission est terminée, je reçois beaucoup de messages comme ça de gens qui appréciaient ce que je faisais. Fait que je trouve ça le fun. Au moins, je le sais. Je le sais maintenant, tu sais, que
est-ce qu'on,
les gens entendaient bien.
Est-ce que les gens te l'apprennent? Étais-tu... Ton apport, ton côté, le côté féminin, tout ça, pas que, là, mais pour prendre, tu sais, pour vraiment l'illustrer.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est très bon ce qu'a dit Louise. C'est vrai qu'on avait des invités de tout acabit, de plus jeunes ou whatever. Ben, tu sais, dans la vraie vie, t'es une mère de famille, pas moi, pas Vez. Tu sais, il y a comme plein d'affaires que t'amènes sur des sujets. Moi, j'aime bien les sujets de société, puis là, ça t'interpelle. Puis est-ce que t'étais consciente de l'apport?
Ben moi je me sentais plus sollicitée depuis les 6 derniers mois là, je te dirais là, tu sais où la synergie d'équipe, si au retour je la trouvais bonne, est-ce que je savais que ça avait une résonance chez les gens là, comme tu dis?
Oui.
Pas tant que ça, comme je dis, les gens, on n'a pas de retour beaucoup. Puis moi je suis la fille dans l'équipe, c'est ça je disais souvent aux gens là, moi je suis la fille dans l'équipe du retour, tu sais, fait que les gens retiennent pas nécessairement ton nom ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, je suis un peu...
C'est que t'as descendu plus creux que tu pensais auprès des auditeurs.
Plus creux?
Ben, c'est une façon de...
Ouais, ben, tant mieux si les gens ont perçu ma personnalité, là. Tu sais, parce que je suis avec vous autres que je suis dans la vie.
Direct.
J'ai pas de...
Moi, je peux le confirmer. Mais tout le monde est de même ici, là.
Ouais.
Tout le monde est de même ici.
C'est parce que tu peux pas vivre bien longtemps à la radio si t'es pas toi-même. Tu peux pas jouer un rôle tout le temps.
Ça dépend quelle antenne.
Oh...
Il y a une antenne plus
parce qu'à un moment donné, ça finit par se sentir, puis tu perds ton authenticité.
Oui, non. Les gens mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais OK, mais quand je dis ça dépend de l'antenne, c'est que dans une antenne de radio parlée de Québec plus qu'à Montréal, ça fait partie de l'ADN ici puis de l'histoire de la radio de sentir que quand on écoute les gens, on les connaît pour vrai. Mm. Puis c'est vrai. Puis moi, je suis tombé dans cette marmite-là. Là. À la rigueur, des fois, on pêche par excès de transparence.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des fois...
Non, je suis complètement
c'est vrai. Comme des fois, on va loin dans le fait de se dévoiler.
Lundi, on a reçu deux appels de gens qui ont dit « Bon, pouvez-vous parler d'autre chose que des sacs de chips ou whatever?
Ouais. »
Puis j'ai corrigé le tir le lendemain. Mm-hmm. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai envoyé des sujets, j'ai fait « Ouais, c'est vrai, comment donner? » Mais sauf que savez-vous quoi? C'est que de un, le dosage parfait en soi n'existe pas. De deux, pour le dosage parfait pour un, l'autre après va dire c'est plate à mort.
Mm. Mais c'est difficile de satisfaire tout le monde.
Voilà. Mm. Mais ce qui reste, c'est que quand tu cultives la transparence, à un moment donné, tu tombes dans du ultra personnel. Puis il y a des gens pour qui c'est comme ben là, tu sais, je veux dire, j'écoute la radio, là, c'est quoi, pourquoi vous me parlez d'eux? Mais ce que personne ne se rend compte, personne, c'est que quand, par exemple, Éric nous parlait de la laveuse, puis sa sécheuse, puis sa patente, puis que du monde me disait à moi, oh, là, il va-tu en revenir? C'est drôle, tu m'en parles. De un, puis de deux, c'est pour ça qu'à quelque part, le lendemain, quand on parle plus d'affaires personnelles, qu'on arrive avec des opinions, puis un gros débat, puis ah ouais, let's go, vous avez encore l'impression, vous savez, c'est qui vous parle.
Mm-hmm.
Parce que la veille, on vous a parlé de sécheuse, de sac de chips. Ça fait que c'est un heureux mélange, tout ça, qui n'est pas évident à doser, que personne ne peut arriver à faire 4 heures par jour.
Ah, mais là, on n'a pas le choix de se commettre, mm-hmm. Soit dans nos opinions, ou soit dans ce qu'on raconte de plus personnel.
C'est ça.
Parfois.
Absolument.
Puis c'est vrai que c'est arrivé qu'on part tous le soir en disant « Est-ce que j'aurais dû aller là? » Est-ce que j'aurais dévoilé ou un truc plus personnel? Est-ce que c'était correct? Mais en même temps, moi, je me dis toujours, j'essaie toujours de terminer ma journée au travail en me disant est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a été utile? Tu sais, dans les sujets qu'on aborde, c'est sûr qu'en information, je pourrais toujours me dire « Ah, Julie, c'est utile ce que tu as fait parce que tu as informé les gens aujourd'hui. Mm. » Mais quand on aborde le plus personnel, si c'est pas toujours pertinent, ultra pertinent, mais il y a des sujets qu'on aborde qui sont utiles. Puis là-dessus, quand moi, je m'aperçois que j'ai donné un petit peu plus de moi-même puis un petit peu plus de personnel, mais je me dis « Ben, si ça a pu aider une ou deux personnes là-dedans. »
Mais c'est parce que comment tu peux rejoindre les gens en dehors de pouvoir dire « Moi aussi, je suis comme toi.
Mm. »
Fait que des fois, c'est sur les trucs qui nous angoissent, sur les trucs où on dit là-dessus « Moi, je trouve que je suis pas bon. » Ou... En un mot, c'est que tu peux pas entrer en connexion avec quiconque si t'es jamais vulnérable.
Mm.
C'est que si t'es vulnérable, c'est sûr, le mot le dit, il y a une porte d'ouverte qui peut déplaire. Moi, j'ai connu des gens très connus qui ne veulent jamais être vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas se commettre. C'est une équation. Ça fait qu'ils ont raison, ils se commettent jamais. Mais bizarrement, c'est des gens avec qui on n'est pas très attaché.
Mmh.
Ça fait que tu peux pas devenir attachant si tu es tout le temps en train de te surveiller tout. Puis
c'est parce que tu n'as jamais l'impression de bien connaître la personne.
C'est ça?
Alors, comment tu veux t'attacher à quelque chose que tu connais peu?
Comme trouves-tu ça attachant, toi, Vez, quelqu'un qui dit « J'ai piqué toute une fouille en ski » ou tu trouves ça juste bête?
Je trouve ça et bête et attachant.
C'est Julie Grenon, encore une fois. C'est vraiment la vedette en ce début de show. Qu'est-ce qui est arrivé, ma foi du bon Dieu?
Comme bien du monde. Je pense que les bêches qu'on se prend, les fouilles qu'on prend en ski de fond, font mal.
Tu appelles ça une bêche?
Oui, bêcher.
Ouais, c'est bêcher. Oui, c'est une expression
jeune. Ça fait très français. Puis je suis
et j'ai vraiment bêché dans le cœur, comme dirait bien du monde.
Oh, on est rendu dans quelle région?
Mais est-ce que tu bêches ou tu te bêches?
Ah, je me suis bêchée.
Je pense que c'est que j'ai souvent entendu.
En tout cas, c'est peut-être pas super français, là, mais c'est certainement dans le langage familier.
Oui.
Non, c'est ça. J'étais à Dansereau hier matin. J'allais faire du ski de fond, bien contente, tout ça. Puis je la regardais, la côte, là. Tu sais, je me suis dit, il me semble c'est risqué, mais vas-y quand même.
OK, on y va.
Parce que dans les côtes, quand ça tourne, des fois, t'as plus tes deux tracks, là.
OK.
En tout cas, celle-là, il n'avait plus. Mm. Fait que j'ai fait le grand écart, puis je suis tombée face la première, l'épaule, tout ça. Et ce qui m'était jamais arrivé, c'est d'avoir un bain de neige dans l'oreille, complètement enfoncé. Il a fallu que j'aille chercher la neige, puis ça fait mal,
Dieu.
Ça. Ça fait mal. Ça a vraiment... Puis après ça, tu sais, quand on a de l'eau dans l'oreille puis que c'est sourd, là, fait que tout le long, je m'en venais.
On me disait, coudonc, elle aime ça, la musique.
Ah, ouais,
elle a dans la tête, la toune.
C'est ça. Là, je me tâche la tête d'un bord puis de l'autre, je me disais,
un moment donné. Comme un bobblehead.
Ouais, exact.
Ça. Fait que mon tympan en a pris pour son rhume, mais puis un petit peu mon orgueil, mais pas tant que ça. Je vais retourner quand même, mais c'est ça.
Mais sinon, restons dans le transparent. Pourquoi tu n'étais pas là hier?
Ah, j'avais...
Tu cacheras bien, là.
Je cache rien. Mon fils avait un rendez-vous médical.
Maxence circonflexe?
Oui, puis normalement, on s'arrange. On est un couple, on est deux, mais là, c'était rendu à mon tour, finalement. Ça ne fonctionnait pas. Mon chum n'était pas capable de se libérer.
C'est des choses qui arrivent.
Ben oui.
Complètement.
On est absent pour nous-mêmes quand on est mère de famille, mais oui. On est absent aussi pour les autres.
Et là, entre en studio, attention, breaking news, Luc de la Sablonnière, nul autre que l'éminent recherchiste du retour, qui fera son switch avec Éric dès lundi au midi. Bonjour Luc.
Bonjour Marc, bonjour
Luc,
la gang.
Luc, t'es là, j'explique pourquoi. C'est que tout à l'heure, évidemment, nous autres, on se pointe à midi, on travaille l'émission à partir du matin, on se pointe à midi, on a notre lunch, etc., on jase, blablabla. Puis tu commences à me parler du séjour où là, t'accompagnes ta plus grande, Raphaël, qu'on a eu d'ailleurs la chance au spécial de Noël, les cadeaux qu'on trouvait qui est venu.
Oui, Raphaël qui avait gagné un livre de Greta Thunberg.
Exactement.
Elle était bien contente.
Voilà. Elle a quel âge encore, Raphaël?
Elle va avoir 15 ans demain.
Demain, c'est sa fête. Mm-hmm. Et elle a fait du patinage de vitesse.
Elle fait du patinage
sur 400 mètres, si j'ai bien compris.
Elle fait du patinage de vitesse courte piste et longue piste. Il faut savoir qu'il y a deux disciplines dans le patinage de vitesse. Le courte piste qui se pratique en aréna sur des patinoires de hockey ou un peu plus grandes, de taille olympique.
Okay.
Et il y a du patinage de vitesse longue piste qui se pratique sur un anneau, le plus souvent extérieur, de 400 mètres de diamètre.
Bon, là, tantôt, tu me parles de ça. Puis je réalise que, ben pas tu réalises, tu me rappelles qu'il y a en construction près de la gare d'autobus de Sainte-Foy, ou le marché aux puces à l'époque, blablabla, un gros anneau de glace. Puis souvent, j'arrive en autobus, puis je vois effectivement le toit en partie. Mais moi, pour moi, c'est comme toujours un peu weird, c'est un anneau de glace. Je suis pas familier comme toi. Et là, je réalise l'ampleur de ce projet-là, la plus-value qu'il va avoir à Québec pour ça. Résume-moi, c'est quoi pour toi la vision, vu que toi, tu as les deux pieds déjà dans cette activité-là. Non seulement ce qui s'en vient, décris-nous-le un petit peu, mais dis-nous en quoi tu penses que ça va avoir un impact à Québec qui va bien au-delà de juste l'utilisation que les citoyens vont en faire.
Je t'explique ça, Marc. C'est un centre de glace qui va avoir, qui va être construit à Sainte-Foy sur les lieux de l'actuel anneau Gaétan-Boucher et sur les lieux du centre sportif de Sainte-Foy. Alors, ceux qui sont familiers avec le secteur, il y a la gare d'autocar de Sainte-Foy, le marché de Sainte-Foy, il y a le centre sportif de Sainte-Foy et derrière, il y a un terrain vacant sur lequel la construction est en train d'être érigée.
Ben, c'est là où il y avait l'anneau de glace Gaétan-Boucher.
C'est précisément
Entre les arénas puis Henri IV.
Précisément l'endroit.
Ben, en fait, c'est la rue de Rochebelle.
Absolument, tout à fait. Alors, c'est un projet qui a été mené par les autorités municipales. Régis Labeaume était derrière le projet. C'est un projet qui a été critiqué parce qu'il coûtait quand même quelques dizaines de millions, une trentaine de millions, si mon souvenir.
C'était pas 70?
Peut-être.
70-80, je pense.
Peut-être.
Ça vient avec un budget, comme n'importe quel projet.
Ça vient, c'est une belle infrastructure, une grosse infrastructure qui effectivement a un coût. Mais une fois que tout cela est dit, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce matin, demain matin, en fait, je vais partir à 3 heures du matin pour Lake Placid avec ma Raphaël, qui participe aux sélections du championnat canadien de patinage de vitesse longue piste qui va avoir lieu à Red Deer plus tard en février.
Okay.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on va à Lake Placid, nous, en fin de semaine, ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres anneaux de glace de 400 mètres de diamètre à l'est de l'Amérique du Nord. Il n'y en a pas d'autres qu'à Lake Placid.
Ni au sud de Lake Placid, ni au nord, ni en Ontario, ni au Québec.
Non.
Pas à Montréal, pas à Toronto.
Aucun dans l'est.
À ma connaissance, en Amérique, il y a Calgary. Je ne sais pas si c'était à Whistler ou Vancouver ou je ne sais pas quoi. Là, en tout cas, pour les Jeux olympiques de 2010.
Oui.
T'as Lake Placid, puis il y en a peut-être un au Colorado, mais je suis pas sûr.
Attention, Vez, l'anneau de glace de Lake Placid, il est extérieur. Celui de Calgary,
c'est vrai, oui.
Celui de Calgary est intérieur, puis c'est une infrastructure magnifique qui nous a permis d'avoir les Jeux olympiques. Mais l'anneau de glace intérieur que nous aurons à Québec en 2020, parce que l'ouverture est prévue cette année, un peu plus tard cette année, ça va être une infrastructure totalement unique dans l'Est, non pas du pays, mais dans l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, ça va attirer des compétitions d'envergure internationale.
C'est ça, c'est là que j'en viens, moi, que je trouve que personne n'a l'air d'être au courant de ça. C'est que c'est tellement unique comme projet que, par définition, « If you build it, they will come », comme dans le film de Kevin Costner.
Exactement. « If you build it, they will come ». Puis ceux qui vont venir, c'est des jeunes, des athlètes de très haut niveau.
Leur famille, les groupes.
Leur famille, les groupes, les organisations. Ce monde-là vont prendre des chambres d'hôtel, dépenser dans les restaurants, voir Québec, avoir une belle idée de Québec parce que cette infrastructure-là va être extraordinaire.
Oui, puis c'est pas perdu à des kilomètres. Là. C'est vraiment à Sainte-Foy. Là, t'sais.
Absolument.
Oui.
Et c'est un bijou. Faut reconnaître qu'on va avoir un bijou avec nous à Québec qui va changer un peu le visage là, de la ville.
Ah oui.
Il va y avoir des visiteurs, il va y avoir des jeunes, le sport va être valorisé. Le centre va aussi être ouvert aux sportifs amateurs, aux patineurs.
Puis au grand public. Absolument. Là, il va y avoir du patinage libre. Il va y avoir deux, si je ne me trompe pas, mais est-ce que Robert est là?
Oui.
Ah ben, on va y parler. Je pense que c'est le gars le mieux placé pour nous expliquer.
Au lieu qu'on soit en train de deviner, on va parler à Robert Dubreuil, qui est le DG de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Bonjour, Robert.
Bonjour.
Si on m'a dit qu'il fallait que je t'appelle Bobby Doob. Ben non, mais moi, j'aime ça, les surnoms, là.
Bon, moi, je vais vite, puis on m'appelle Bob, mais je m'appelle moi-même Bob. Là.
Bon,
mais,
on va garder Robert. Bon. Robert, raconte-nous donc, c'est quoi la plus-value? À quoi ça va ressembler, ce truc-là? Ça va amener qui? T'sais, toi, là, qui est carrément là, à la tête de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, quand on te dit, il y a cet anneau de glace-là qui arrive intérieur, qu'est-ce que tu nous racontes?
Ben, c'est un immense centre sportif, effectivement, pour les sports de glace, patinage de vitesse sous ces deux formes-là, courte piste, longue piste. On va y aller par les plateaux sportifs pour commencer.
Okay.
Il y a un anneau de glace de 400 mètres réfrigéré intérieur. À l'intérieur, il y a deux patinoires de dimension internationale. Une qui est avec une protection sans bande, exactement comme celle à l'Aréna Maurice-Richard où s'entraîne l'équipe nationale et où se tient en fin de semaine, d'ailleurs, le championnat des quatre continents. On a une autre patinoire de dimension internationale avec bande à côté. Ça, c'est à l'intérieur de l'anneau. Et à l'extérieur de l'anneau, il va y avoir une piste de jogging de trois couloirs, la largeur d'un couloir de piste d'athlétisme.
Okay.
Mais on peut pas l'appeler piste d'athlétisme parce que, premièrement, il y a juste trois couloirs. Deuxièmement, elle va être plus grande. Elle va être environ 500 mètres parce que l'anneau de glace est de 400 mètres lui-même. Mm-hmm. On n'a pas le même rayon que la piste d'athlétisme. Mais fait que là, la population, les gens vont pouvoir venir marcher, jogger, courir, s'entraîner, dépendamment de leur niveau de pratique, sur cette piste-là qui va être vitrée tout autour du bâtiment. Tout le tour du bâtiment est vitré. Donc,
ça va être beau en plus.
Je pense que ça va être fort attrayant.
Excuse-moi, vas-y.
Juste pour donner une idée aux gens, l'anneau de glace, c'est à peu près la même grandeur que la piste de course qu'il y a autour du stade de football du Peps, mettons, là, grosso modo, là. C'est pas le même. C'est pas la même
oui,
courbe.
Oui, ben, en fait.
C'est du 400 mètres. En fait.
Oui, exactement. La piste d'athlétisme et l'anneau de glace ont 400 mètres. Ils n'ont pas le même rayon.
C'est
donc,
ça, ouais.
Les droits sont un peu plus longs en patinage de vitesse qu'en athlétisme.
Les courbes plus.
Mais c'est la même 400 mètres.
Okay. Mais moi, ça, ouais, Robert, exactement. Déjà en partant, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je voulais qu'on parle de ça. Parce que quand on voit ça à télé, moi, là, sérieusement, je pensais que courte piste, longue piste, dans ma tête, dans le fond, je pense que j'ai jamais fait la différence. Puis je m'imaginais toujours qu'une longue piste, c'était quelque chose qui ressemblait à peu près à la glace au centre Vidéotron.
Longue piste?
Oui. Non, exactement.
Ouais, mais attends un peu, avant de me traiter de cave, je te vois arriver.
Non,
je
n'ai rien dit.
Pas du tout.
Je fais des blagues. Mais je t'explique pourquoi je dis ça. C'est que ils vont tellement vite, puis on n'a tellement pas d'idée sans l'avoir vu de à quelle vitesse ils vont, que moi, je vois juste quelques secondes pour faire le droit. Là. Mm. C'est que dans ma tête, c'est pas si grand. Quand Vez, tantôt, me dit, ben. Parce que, tu sais, c'est comme tu prends le terrain de football là, du Rouge et Or, mm-hmm. puis tu mets la piste autour. Les bras vont tomber. C'est énorme.
Oui, c'est un bâtiment, effectivement, qui est énorme. L'anneau, c'est grand. En général, le patinage longue piste se fait contre la montre. On a introduit dans les dernières, dans la dernière décennie aux Olympiques et puis au niveau mondial, et le reste s'en suit, là, des compétitions par équipe.
Oui.
Il y a une poursuite par équipe maintenant, un peu comme en vélo. Il y a une poursuite sprint au niveau des championnats du monde. Il y a une course de départ en groupe. Donc, on essaie de le rendre plus attrayant parce que le sport contre la montre, des fois, est difficile à suivre. Mm. Mais souvent, les gens, depuis les dernières décennies, avec la montée du patinage courte-piste qui est devenu olympique en 1992, mélangent les deux. Mais dans les deux cas, autant en courte qu'en longue, on a des épreuves de même distance. On a le 500 mètres en courte et en longue. On a le 1000 mètres, on a le 1500 mètres. Alors, les patineurs font les mêmes distances, mais ils le font de façon différente. En courte piste, on est sur une patinoire de 111 mètres, un anneau de 111 mètres au lieu de 400 mètres. Et puis, on patine en groupe. Mm-hmm. C'est plus un sport spectacle. Alors, oui, le premier qui traverse la ligne gagne la course. Mm-hmm. Complètement différent. Alors, avec le centre de glace, si on a un autre avantage, on va avoir les deux devant nous. On va être capable de bien les distinguer, évidemment.
Il va y avoir des estrades. Combien de sièges, à peu près, pour assister à des épreuves de patinage de vitesse longue piste?
Parce que, en fait, on va monter jusqu'à environ 2000 sièges pour des grandes épreuves internationales de patinage longue piste. Mais parce que au quotidien, c'est pas les événements qui vont faire vivre et dynamiser ce centre-là. On a vraiment mis analyser avec la Ville de Québec au niveau de la planification de la construction sur une utilisation par toute la population. Donc, la piste de jogging dont je parlais tantôt va être utilisée pour placer des estrades en événement.
Okay.
Donc, c'est un multi-usage très flexible. Il va y avoir à peu près 500 places fixes. Puis des places aussi à l'intérieur pour les patinoires à l'intérieur de l'anneau.
Mm-hmm.
Parce que c'est un complexe. Là, quand on va entrer dans ce complexe-là, ouvert 7 jours sur 7, de 7-8 le matin à 10-11 le soir, ben on va avoir 3-4 sports qui vont se pratiquer en
c'est
même
ça,
temps.
Ouais.
En même temps qu'on a une équipe nationale de patinage longue piste qui fait son entraînement, on aura peut-être des jeunes de patinage artistique sur la patinoire avec bande, des jeunes qui vont faire du courte piste ou des ados qui vont faire du courte piste sur l'autre et des gens qui vont faire de la marche sur la piste de jogging. Donc, c'est multisport, multi-usage, multiniveau. L'athlète de pointe va côtoyer le retraité qui va côtoyer les enfants sur les différents plateaux sportifs. C'est une mixité d'intérêts puis de niveaux de pratique sportive là-dedans.
Est-ce qu'on va pouvoir tenir des compétitions internationales sur une des deux ou les deux patinoires à l'intérieur, ce que j'appellerais peut-être les patinoires de hockey, là,
dont une
qui n'a pas de bande, là? Est-ce qu'il y a de la place pour installer des estrades là en assez grand nombre?
En fait, ultimement, à la base, il n'y a pas les places disponibles. Techniquement, on est capable de le faire. Ça ne sera pas une priorité parce qu'au niveau international, au fur et à mesure que le projet là, qui a été présenté et développé sur plus de 15 ans, là, les choses se sont développées en courte piste et il est très difficile de créer un bon amphithéâtre intéressant pour le courte piste à l'intérieur d'un si grand bâtiment. Calgary, Salt Lake City l'ont essayé plusieurs fois et c'est très difficile. Alors, ça ne sera pas une priorité. On va avoir jusque certainement, dès la première année, des compétitions au niveau national. Mm-hmm. Mais des compétitions internationales, c'est pas dans les priorités en patinage courte piste. En longue piste, évidemment, qu'on est déjà en train de travailler là-dessus, là, d'ailleurs.
Depuis la naissance de ce projet-là, Robert Dubreuil, on a entendu, évidemment, plein d'oppositions. Il n'y a pas un projet qui se fait à Québec sans opposition. Là. Puis la plupart des arguments, c'était, bon, une autre affaire qui va coûter des dizaines de millions de dollars puis qui vont servir juste à l'élite.
Ouais.
En quoi le monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir, de quelle façon ils vont pouvoir profiter de cet équipement-là?
Ben, en fait, comme je le disais tantôt, puis il y a un point aussi, il y a deux autres glaces qui sont les anciennes glaces du centre sportif de Sainte-Foy qui vont être intégrées au bâtiment parce que le nouveau bâtiment s'intègre ou se lie, si on veut, avec l'ancien bâtiment. Donc, le centre de glace, là, c'est un anneau, quatre patinoires dans le fond, deux au milieu de l'anneau, mais deux autres patinoires.
Ouais.
Donc, c'est une, comme je le disais, là, on va avoir du 4 ans jusqu'à du 84 ans là-dedans, de 3-4 sports de glace différents. Il va y avoir des périodes pour le patinage public, évidemment, donc des activités libres pour la population, des activités organisées pour la population et multi-âge, multi-niveau. Donc, tout le monde peut, s'il s'intéresse au sport de glace, à la marche ou à la course ou au jogging, va pouvoir en bénéficier d'une façon ou d'une autre, là, selon les horaires qui sont... à ce moment-là, développer. Okay.
Est-ce que la patinoire avec bande au centre de l'anneau de glace, est-ce que ça peut servir pour le hockey?
Oui,
c'est pas supposé remplacer en partie l'aréna de Sillery, je pense, qui est démolie?
Oui, exactement. Okay. C'est même prévu, en fait. Ça va être pas mal utilisé par le hockey. Le patinage artistique va être servi également dans ce bâtiment-là.
Okay.
Le hockey va être très présent. Et le hockey, notre sport national, il va être desservi par le centre de glace. Mmh. Et les deux patinoires qui existent déjà, qui sont en rénovation également, là. Je pense que c'est pour ça que là, avec cette vision-là, parce qu'à un moment donné, on avait un projet qui avait un anneau et un terrain multisport dans le milieu.
Oui, même un sous-sol avec des glaces de curling, mais ça a été abandonné malheureusement parce que je suis un joueur de curling.
Exact. Il a tellement évolué le projet, mais quand la vision sport de glace est arrivée avec une piste de marche jogging, je pense qu'on a atteint un bon niveau là d'élargissement, de mixité, si on veut, sportive, spécialisée en sport de glace, mais on ajoute la piste de jogging. Je pense que la population va vraiment avoir un bâtiment qui va être très accessible et c'est des milliers de personnes qui vont venir l'utiliser ou le visiter. Là.
Ouais, il va y avoir des séances de patinage de patins à roulettes, dans la roue à lier aussi, si je me trompe pas. Est-ce que ça va être l'été, ça?
Ben, en fait, si on a le succès escompté, puis si on va tout faire pour l'obtenir, quand je dis mais c'est la Ville de Québec qui est propriétaire et les gens qui vont animer tout ça, on va viser de l'ouvrir en bâtiment glacé, si on veut, avec les plateaux sportifs glacés, on va vouloir l'ouvrir 11 mois par année ou 12 mois par année. Mm-hmm. Donc, il y aura probablement pas de capacité en ce sens-là. Okay. En ce moment, la culture n'est pas tellement de faire du patinage sur glace au mois de mai,
ouais.
Mais l'idée est de l'utiliser. Il est conçu pour être un bâtiment glacé à l'année, donc avec les patinoires ouvertes et l'anneau ouvert.
OK. Robert, tu es le père de Laurent Dubreuil, qui est actuellement un athlète olympique en patinage à vitesse longue piste, qui doit s'expatrier dans l'Ouest canadien pour plein de séances de stages d'entraînement. Ça coûte des sous, tout ça, et tu dois avoir une idée du budget de Laurent. Combien ça va économiser? Puis là, oui, c'est vrai, je parle de l'élite, là, mais c'est juste pour vous donner une idée. Combien il va économiser là-dessus, sur son budget d'entraînement, grâce à l'anneau à Québec?
Ben, c'est sûr que y a en ce moment un athlète du niveau de l'équipe nationale comme Laurent ou Alexandre Saint-Jean ou plein d'autres ont 3, 4, 5 voyages seulement qu'à Calgary, on parle pas des Coupes du Monde. Mm-hmm. Certains voient leurs frais défrayés en tout ou en partie, d'autres pas. Alors d'un cas à l'autre, ça varie beaucoup, mais on parle de 5 000-10 000 $ pour plusieurs là qui vont être économisés. Et sans compter que si je prends les études des athlètes, si je prends, on parlait de Laurent qui est père d'un jeune enfant de 6 mois, mm-hmm. Ça fait toute une différence. Ça va allonger des carrières, ça va permettre à des athlètes de penser peut-être à s'essayer pour un autre cycle olympique, mm-hmm. De mieux faire, de mieux combiner sport et études également dès l'adolescence. Parce qu'évidemment, ça sera pas blanc-noir, ça sera pas juste la population. Le patinage public, l'équipe nationale, il y a toute la panoplie, les ados deux, ouais. qui pratiquent le sport, etc. Eux autres aussi, à un moment donné, quand on arrive au cégep, on perd beaucoup dans le sport de jeunes athlètes parce que l'alliance ou le mariage entre les sports et les études est difficile. Donc, on va être capable, avec une telle infrastructure, de mieux le faire et donc d'améliorer les conditions de vie des athlètes étudiants. Là.
Alors, si chaque athlète de l'équipe nationale qui sont dans l'Est, par exemple, économise entre 10 et 15 000 $ par année en frais de voyage dans l'Ouest, qu'ils n'auront plus besoin de faire, ils vont pouvoir mettre cet argent-là sur un meilleur encadrement, physiothérapeute, entraîneur, etc., etc., etc. Donc, meilleure performance au niveau olympique quand ça arrive aux 4 ans.
Définitivement que sans cette infrastructure-là, on se maintenait à bout de souffle, à bout de bras, et là, on vient de se doter d'une infrastructure qui va faire des petits assez rapidement là, au fil des prochaines années. Là.
Robert Dubreuil, qui est DG de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, merci pour les précisions et l'éclairage, Robert, puis à la prochaine.
Merci beaucoup, on a hâte de vous accueillir. Ouais, on est très, très fringants, c'est une grosse année.
C'est bon,
ça ouvre quand, officiellement, à l'automne?
On voit publiquement que c'est automne 2020, mais on sait que l'automne finit le 21 décembre.
Ouais.
Mettons-nous dans la tête janvier 2021, là, pense qu'on s'en va vers ça. On n'a pas la date précise, et bon, évidemment, en construction, ça évolue, ça bouge beaucoup. Mais en ce moment, la construction va bien, et puis il n'y a pas de problème majeur, donc fin 2020, début 2021.
Parfait. Merci, Robert.
Salut, Robert.
Merci. Au plaisir. Bye.
Julie.
Ben oui, en fait, on attend depuis 14 heures le point de presse du premier ministre Justin Trudeau pour réagir à ce qui se passe du côté de l'Iran avec cet écrasement d'avion. Ça tarde, il est 14h30, puis c'est toujours pas commencé. Et là, on apprend qu'il y a un missile qui a été lancé près d'une base irakienne qui abrite des Américains. Donc, c'est en cours d'investigation. Je vais pas faire d'amalgame, là, mais c'est peut-être ce qui fait en sorte que le point de presse de M. Trudeau est retardé. En fait, ce qu'on voulait de M. Trudeau, puis je veux dire, les médias, puis tout ça, c'est sûr que les Canadiens veulent savoir quelle position le Canada va prendre parce qu'on a appris que que l'avion pourrait avoir été abattu par un tir de missile. Ce serait quand même par erreur, mais ce serait parce que le système anti-aérien iranien se serait mis en fonction. En tout cas, là, tout ça, c'est sous enquête.
Ouais.
Les Canadiens qui voudraient bien avoir accès aux boîtes noires de l'appareil, jusqu'à maintenant, les Iraniens ont dit qu'ils allaient les conserver et qu'est-ce qu'on sera en mesure d'en tirer aussi de ces boîtes noires-là. Et ce matin, ce qu'on demandait du côté du Canada, parce qu'on sait que les relations diplomatiques entre l'Iran et le Canada, c'est zéro. Il n'y en a pas, donc, depuis quelques années. Et donc, le Canada a demandé à pouvoir offrir des services consulaires aux citoyens irano-canadiens, donc, qui se trouvent sur le territoire là-bas. On veut aussi être en mesure d'aller sur place pour identifier les dépouilles des Canadiens qui sont décédés décédé. Et on veut aussi, donc, évidemment, participer à l'enquête pour décoder là, ce qui s'est réellement passé et voir du côté des boîtes noires. Et justement, là-dessus, j'ai envie, avant la pause, de vous faire entendre l'ancien pilote de ligne, Jean Serra, qui a affirmé que l'analyse des deux boîtes noires permettrait de lever le doute sur ce qui s'est réellement passé, si doute il y aura encore.
La boîte noire va dire, par exemple, qu'il y a une dépressurisation explosive de la cabine. Donc, dépressurisation explosive de la cabine veut dire qu'il y a quelque chose qui a heurté cette cabine. On peut, par des éléments concrets, vraiment réels, qui sont enregistrés, pouvoir voir que, par exemple, il y a eu une rupture de la cellule parce qu'elle a été impactée par un projectile.
Et on peut ajouter aussi André Turenne, qui est un ancien enquêteur au Bureau de la sécurité des transports du Canada, qui a affirmé que le pays, ici, on a les compétences pour participer à cette enquête-là.
Il y a une entente de l'OACI qui s'appelle l'annexe 13, qui permet normalement au Canada, le fait qu'on a un grand nombre de passagers canadiens, permet au Canada d'être observateur. Ça rentre, on pourrait dire, dans la loi au niveau des transports aériens, au niveau du monde international.
Alors voilà, c'est ce qu'on attend. Si vous allumez les chaînes d'information en continu, on est en attente du point de presse de Justin Trudeau pour faire la lumière. Là, de.
Mais moi, là, oui. Je me mets à la place de Justin Trudeau puis du gouvernement du Canada. Là, c'est un des plus beaux pièges que je peux imaginer, que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu fais? S'il est avéré que c'est un missile de l'armée iranienne qui a descendu un avion civil dans lequel il y a 63 Canadiens qui sont morts, est-ce que tu dis, ben coudonc, c'est un accident, on trouve ça bien plate? Est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu t'engages à des représailles? C'est un peu ça que tu veux dire?
Oui.
À embarquer dans un...
Qu'est-ce que tu fais, point? Quoi les options? Puis, je veux dire, A va faire chialer B, là.
Ouais.
Puis B va faire chialer A, là. Ouais. C'est comme, qu'est-ce qui va... C'est quoi la meilleure position possible pour un gouvernement dans un cas comme ça? C'est-à-dire avec des outils militaires, bien que soi-disant involontaires, tout à coup, tu as 63 de tes citoyens. Qu'est-ce que tu fais?
Ben, il y a encore un piège, hein, parce que là, nous, on fait un lien entre les deux. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Tu sais, je veux dire, l'enquête n'est pas terminée.
Voilà,
la réponse qui s'en vient là, dans quelques minutes à Ottawa se doit d'être tempérée, se doit d'être diplomatique encore, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de confirmation.
Puis d'après moi, ça se peut qu'elle vienne jamais, la dite confirmation, mais il faut que tu fasses quelque chose pareil. Il
ouais.
Faut que tu aies une position, parce qu'il y a des gens morts avec des familles. Ça passe aux nouvelles partout, tu comprends?
Oui.
C'est vraiment pas évident, là. Qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça, là? Parce que c'est pas un cas où on vient de nous déclarer la guerre, quelqu'un a tué en disant, hey, blablabla. Non, non. Ce qu'on pense, parce que de toute façon, on voit vraiment pas d'autres raisons. Comment ça se fait qu'on tire un avion de ligne? Ça n'a aucun rapport. Donc, presque assurément, si c'est un projectile, c'est une erreur. Mm. Mais ça reste encore. Ouais, mais vous avez tué 63 de nos citoyens. Vous êtes l'armée. Comprends-tu? C'est pas l'État islamique, là. C'est pas du terrorisme. Je te le dis, c'est une boîte, là, de... Oh my God! En tout cas, mais on va voir, justement, quand Justin Trudeau va parler de ça tout à l'heure, on va vous revenir avec quelle aura été sa position. Si position il y a, ce qui est souvent très bon pour pas en avoir, ça fait qu'on va voir si... Non, mais quand même.
Ben, il y a un élément qui fait que c'est retardé, là.
Ah, clairement.
Parce que c'était annoncé à 14h.
Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de nouvelles informations qui sont en train de rentrer? C'est certainement ça, là, la situation qui évolue assez rapidement.
Très. Le retour d'Éric.